8h44 à Paris, c'est la suite d'RFI Matin jusqu'à 10h et dans le prochain quart d'heure, la revue de la presse Afrique. Notre invité Mohamed Malik Fall en charge de la réponse humanitaire de l'ONU au Nigeria après les inondations de la semaine dernière. Et puis évidemment avant 9h, le sourire de Maman.
Nathalie Amar.
Nous sommes le mardi 17 septembre à la une du prochain journal. Les États-Unis, Donald Trump accuse sa rivale démocrate, les propos de sa rivale démocrate Kamala Harris, d'être à l'origine de la tentative d'assassinat présumée qui a eu lieu dimanche en Floride. L'ex-président en tout cas repart en campagne. Le Michigan aujourd'hui, alors que la vice-présidente se rend elle en Pennsylvanie, on s'y arrêtera à 9h. C'est l'un des swing states, ces états clés où se jouera la présidentielle de novembre. On est à 7 semaines du vote. En Israël, nouvel objectif de guerre annoncé par Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre affirme que le retour des dizaines de milliers d'habitants du nord du pays qui ont dû fuir en raison des tirs quasi quotidiens du Hezbollah, ce retour donc figure désormais parmi les buts de guerre de son gouvernement. En Iran, première conférence de presse du nouveau président hier, au deuxième anniversaire de la mort en détention de Mahsa Amini. Masoud Pezeshkian a notamment promis de faire en sorte que la police des mœurs, je cite, ne dérange pas les femmes qui ne portent pas le voile obligatoire en public. Et puis le bilan des inondations provoquées par le typhon Yagi en Birmanie qui grimpe à 226 morts et 77 disparus. Selon l'ONU, ce sont environ 630 000 personnes qui sont touchées par ces inondations dans le pays. On en parlait dans le journal, c'est à la une de la presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Fonny Kemenge et Mamadou Biloba disparus depuis plus de 2 mois en Guinée.
Oui, c'était le 9 juillet dernier. Les deux activistes guinéens étaient enlevés à Conakry par un groupe de gendarmes et de militaires apparemment membres des forces spéciales. Depuis, aucune nouvelle, aucun signe de vie. Le gouvernement guinéen réfute toute responsabilité dans cet enlèvement et les familles sont dans l'attente et dans l'angoisse. Dans un communiqué de presse rendu public hier, rapporte le site Guinée News, les avocats français d'Oumar Sylla, alias Fonny Kemenge et Mamadou Biloba, ont exprimé leur inquiétude face à ce qu'ils appellent le silence des autorités de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sur la disparition mystérieuse de leurs clients. Ils demandent que des mesures soient prises de toute urgence.
Wakat Serra au Burkina Faso s'interroge.
Que reproche en réalité le général Mamadi Doumbouya à ceux qui n'ont commis pour tout crime que celui de défendre la démocratie en dénonçant, entre autres, une transition au contour flou mais dont l'élasticité ne semble inquiéter pas outre mesure les institutions régionales et encore moins l'ancienne puissance colonisatrice, la France. Pourtant, poursuit le site burkinabé, le général qui a arraché le pouvoir par les armes est bien responsable de cette disparition des deux activistes, forfaiture dont les avocats accusent les unités des forces spéciales du GIGN de la Guinée. Sauf que Mamadi Doumbouya n'en est pas malheureusement à sa première dérive, pointe encore Wakat Serra, ses coups de poignard aux droits humains qui éloignent chaque jour davantage la Guinée du retour à la Constitution qui garantirait les libertés fondamentales des citoyens.
Silence de la CEDEAO donc, mais aussi silence de la France.
En effet, relève le site Guinée Matin, la France, pour des raisons encore inavouées, la France a choisi de se murer dans un profond silence. Et c'est ce silence qui vient de pousser le député français Aurélien Saint-Toul à demander une commission d'enquête pour faire la lumière sur les relations actuelles entre la France et la Guinée. La France a toujours été citée parmi les grands soutiens de la junte militaire du CNRD, arrivée au pouvoir par le coup d'État du 5 septembre 2021. D'ailleurs, pointe encore Guinée Matin, la France fait partie des premiers pays qui ont renoué la coopération avec la Guinée au lendemain du putsch. Le gouvernement français a même nommé par décret un fonctionnaire qui coopère auprès du ministère guinéen de la Justice. Ce soutien à toute épreuve de la France au CNRD intrigue, s'exclame le site guinéen, surtout à cause des multiples violations des droits de l'homme, assassinats, enlèvements, musellements des libertés individuelles et collectives perpétrés en Guinée depuis l'arrivée de cette junte au pouvoir. Au moins 50 personnes ont été tuées depuis janvier dernier dans ce pays, selon l'ONU.
En effet, renchérit le site d'information Mediapart à Paris. La France, si prompte à dénoncer les violations des droits humains dans les autres pays de la région, dirigés par des hommes en treillis, la France est, dans le cas de la Guinée, complètement muette.
Oui, les avocats des deux hommes, William Bourdon et Vincent Bengart, ont adressé en vain plusieurs courriers au président Emmanuel Macron. lui demandant d'intervenir auprès de Mamadi Doumbouya. Interrogé par Mediapart, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ne se prononce pas davantage. Et pour cause, s'exclame le site, le chercheur Vincent Fouché et le journaliste Joseph Petit ne prennent pas de précautions langagières pour décrire la situation. La France est aujourd'hui, disent-ils, le principal soutien international du CNRD. Contrairement aux militaires qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso, au Niger et au Mali, l'ancien légionnaire Doumbouya s'est révélé un partenaire accommodant. La coopération militaire a pu reprendre. Les exportations françaises vers la Guinée sont en hausse, selon le Trésor français. Et plusieurs entreprises françaises ont signé d'importants contrats pour accompagner les autorités guinéennes et les opérateurs privés locaux dans leurs grands chantiers. Se réjouissait l'an dernier le mouvement des entreprises de France. Aucun doute, conclut Mediapart, aucun doute, la boussole des autorités françaises reste fixée sur les intérêts économiques et militaires qui l'emportent sur toute autre considération.
Frédéric Couteau, merci à vous. Vous revenez à 9h15 pour la revue de la presse internationale. Près de 40 morts, 400 000 personnes déplacées. Notre grand invité Afrique à présent pour évoquer la crise humanitaire majeure dans le nord du Nigeria, particulièrement à Maïdougouri, après les inondations de la semaine dernière. Il y a 7 jours, le barrage d'Alo, à 20 km de la capitale de l'État de Borno, cédait après des pluies diluviennes. Cette catastrophe s'ajoute à la crise alimentaire et sécuritaire qui frappe tout le nord du Nigeria. Les autorités locales, avec l'appui des Nations Unies, tente de juguler la crise. Mohamed Malik Fall est sous-secrétaire général de l'ONU, coordonnateur résident au Nigeria, en charge notamment de la réponse humanitaire. Il est ce matin l'invité de Guillaume Thibault.
Bonjour Mohamed Malik Fall.
Bonjour.
Une semaine après la rupture du barrage d'Alo, est-ce que la situation humanitaire est aujourd'hui stabilisée?
On ne peut pas encore parler de stabilisation. J'étais à Maïdougouri avant-hier et j'ai pu voir que non seulement le nombre de personnes affectées est en train d'augmenter, on parle de 400 000, mais le nombre de personnes déplacées aussi est en train d'augmenter. On a dépassé les 100 000 déplacés. Les conditions sont horribles, une forte congestion, quelquefois des conditions d'assainissement et d'hygiène qui sont extrêmement limitées, le manque de nourriture, des enfants qui sont malades. N'oublions pas que tout ça se passe sur un terrain qui était déjà très fragile. L'État de Borno est l'épicentre de la crise de Boko Haram depuis 2009. Et c'est dans ce contexte-là que cette inondation vient à la limite nous faire reculer par rapport au travail qui était en train d'être entrepris pour résoudre la question des déplacés sur la durée.
Vous venez de le dire, vous étiez à Maïdougouri samedi. Concrètement, à quoi ressemble la capitale de l'État de Borno?
J'ai vu une ville effectivement coupée en deux, une partie de la ville occupée par l'eau. Il y a des parties de la ville qui sont toujours pas accessibles. Il y a même des populations auxquelles on ne peut pas avoir accès pour les faire sortir de leur résidence où elles se trouvent en ce moment. Les efforts continuent de ce point de vue-là, mais on n'a pas une certitude que toutes les personnes ont pu être évacuées des lieux qui sont affectés par l'inondation.
6 jours après, il y a encore de l'eau dans la ville.
Il y a encore beaucoup d'eau dans la ville. Et je crois que ce taux-là va rester encore longtemps.
Cette catastrophe survient aussi en pleine crise alimentaire, notamment en pleine période de soudure.
Non seulement c'est une période de soudure, mais c'est aussi dans un contexte où, à cause des réformes économiques entreprises par la nouvelle administration, on a observé et on observe depuis plusieurs mois une inflation galopante, surtout une inflation sur les denrées alimentaires. On parle même de 40% d'inflation sur une année, en plus du fait maintenant qu'on est dans la période de soudure. La grosse crainte, moi, que j'ai et que j'observe, c'est aussi quel impact cette inondation va avoir sur les récoltes, parce que si les gens sont empêchés de se livrer à des travaux champêtres, si l'eau compromet la récolte, on risque de se retrouver donc avec une saison encore plus difficile que prévu. Alors que tous nos espoirs, c'était qu'il y ait une bonne saison et une bonne récolte pour avoir plus de disponibilité de produits alimentaires sur le marché.
Vous lancez déjà un appel à la vigilance et justement à anticiper les mois à venir.
Je dois avouer qu'en ce moment, les inondations affectent énormément d'États dans le nord est et nord-ouest du Nigeria, dont la principale activité est l'agriculture. Donc c'est une alerte aussi, non seulement pour se mobiliser et sauver la vie des populations qui sont directement affectées, faire une course contre la montre pour éviter les épidémies, je pense surtout au choléra, parce qu'on sait très bien aussi que l'accès à l'eau potable, les limites d'accès à l'eau potable peuvent conduire à ces épidémies-là. Mais au-delà des besoins immédiats et au-delà des interventions immédiates pour sauver des vies ou réduire la vulnérabilité des personnes affectées, la question qu'il faut garder en perspective, c'est dans les semaines, dans les mois à venir, si les récoltes sont compromises, qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence sur la détérioration de l'accès à l'alimentation, de l'accès à des produits dont les gens ont besoin pour leur survie quotidienne.
On entend une réelle inquiétude.
Je suis très inquiet, effectivement, parce que c'est une crise qui vient se superposer à d'autres crises. Et donc, dans ces conditions-là, avoir une détérioration comme on est en train de le voir peuvent avoir des conséquences beaucoup plus graves qu'on ne le perçoit aujourd'hui.
Derna, en Libye, il y a un an, Arbat, au Soudan, fin août, le barrage de Maïdougouri la semaine passée, les catastrophes sur les barrages se multiplient. Comment prévenir ces accidents majeurs ?
Tout ne se résume pas au changement climatique. Je crois que aussi la préparation des États à ce genre de catastrophe est quelque chose qu'il faut renforcer, notamment la surveillance et la maintenance de ces infrastructures comme les barrages, les ponts. Nous, les Nations Unies, en tout cas, les leçons qu'on tire, c'est qu'il va falloir renforcer, accélérer sur ce plan-là. Éduquer les populations, s'assurer que les populations ne s'installent pas dans des zones qui sont très propices à ce genre de catastrophe, et aussi mettre en place des systèmes d'alerte précoce qui permettent d'évacuer les populations et de les alerter avant que les catastrophes n'atteignent un certain niveau.
Merci Mohamed Malik Fall.
Merci.
Le coordonnateur résident de l'ONU au Nigeria en charge de la réponse humanitaire, Mohamed Malik Fall, avec Guillaume Thibault. Vous retrouvez cet entretien sur RFI.fr. À Paris, il est 9h05. Et c'est l'heure du sourire de Maman dans RFI Matin. Maman, aujourd'hui, dans l'actualité, nous sommes noyés par les chiffres.
Oui, il y a quelques décennies, Dalida chantait « Paroles et paroles et paroles » et oui, une chanson pour moquer tous ces beaux parleurs qui font miroiter des alouettes et des châteaux en Espagne et à Dubaï. Dragueurs impéditants ou hommes politiques en campagne. Mais aujourd'hui, la pauvre Dalida est complètement dépassée. Bah oui, les gars ne nous blaguent plus avec des paroles seulement, hein. Ils ont ajouté à leur arsenal des chiffres. Et oui, partout où tu regardes ou laisses traîner une oreille, c'est des chiffres et des chiffres tout le temps, mon ami. On ne se parle plus, on ne nous parle plus. On nous balance des chiffres à la face en guise de bonjour, des chiffres pour bon appétit, des chiffres et des chiffres pour nous endormir. Et comme dit le poète, les paroles s'envolent, mais les chiffres restent. Au point même où des chiffres et des lettres a préféré tirer sa révérence. Quand nous étions petits, à l'école, ben on nous a appris le calcul en comptant sur nos mains ou des bâtonnets. Et plus tard, on comptait sur le nombre de tomates que la mère de Mamadou Ebinetta a ramené du marché en sachant que le kilo de tomates coûtait 150 francs et que cette gourmande de Binetta en a mangé un certain nombre à l'insu de sa maman. Quand tu avais la bonne réponse, ben c'était 10 sur 10. Si tu te plantais, tu avais zéro ou en tout cas une mauvaise note par pitié. Des chiffres depuis l'enfance. Mon ami, t'as quel âge ? Un chiffre encore. Tu fais quelle taille ? Quel poids ? Des chiffres, rien que des chiffres pour te cerner, te connaître, t'identifier. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre, disait numéro 6 dans la série Le Prisonnier. Le Prisonnier, une série que les moins de 20 ans, encore un chiffre, ne peuvent pas connaître. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que des chiffres. Numéro de sécurité sociale, identifiant fiscal, numéro de téléphone, de permis de conduire, numéro d'assurance, compte bancaire, des chiffres, toujours des chiffres pour dessiner ton portrait en binaire dans la matrice, mon ami. Tension artérielle, taux de sucre, nombre de pas par jour, taux de cholestérol, âge de départ à la retraite, on n'est que des chiffres. Et ça monte en tour quand tu regardes l'actualité. Certaines personnes ne sont plus que des chiffres. Après déjà avoir perdu leur nom, prénom, nationalité, genre, bah, par exemple, 150 migrants noyés par ici, 720 abandonnés dans le désert, 221 reconduits à la frontière, des centaines de milliers sur les routes, des chiffres, que des chiffres. Mais ils ne sont pas seuls, les migrants. À Gaza, il n'y a plus de visages, il n'y a plus que des chiffres aussi. 40 000,
100 000 ou 200 000, tu ne sais plus si c'est le nombre de victimes de bombes ou de bâtiments rasés à Kiev ou dans le Donbass, au Kivu ou dans le Maniema, à Khartoum ou au Darfour, ben c'est pareil, des chiffres et des chiffres, toujours des chiffres. Oh là là, mais ramène-nous Dalida. Paroles, paroles, paroles. Eh oui, à demain.
Eh ben, on va faire le maximum pour vous la ramener. À demain, maman, bonne journée.
Ce mardi sur RFI. Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Pour dénoncer la crédulité des fonctionnaires russes, un artiste activiste réfugié en Pologne tente de les piéger. Il leur donne des consignes farfelues et prétendument patriotiques. Il publie ensuite leurs vidéos sur Internet.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.
Session Lab, un podcast musical réalisé par RFI Labo avec Hortense Vol.
Son style mêle les codes du flamenco au rap et aux musiques latines. Ses textes sont poétiques et revendicatifs et sa voix est juste surpuissante. L'artiste espagnol Keral Klaus est dans Session Lab.
Retrouvez Session Lab avec Hortense Vol en podcast, en audio 3D, sur toutes les plateformes.
Ce jeudi à 20h10 TU, RFI vous invite au concert.
Il y a concert et concert. Là, nous vous convions à celui de Youssoundour, enregistré lors des JO de Paris à la Station Afrique. Nous vous faisons revivre ce grand moment de musique que nous offre la star sénégalaise.
Revivez le concert de Youssoundour ce jeudi à 20h10 TU en intégralité et avec ventilateur.
Soyez à l'écoute de RFI, vous êtes nos invités VIP.